nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Qui n'a été vu par personne ni entendu. Il attend un peu. Non, rien ne bouge dans la maison. Il se dit qu'il est un vrai flic et qu'il vit une vraie enquête. Il est un vrai homme, quoi. Il va vers la maison. Heureusement que c'est pavé et non du gravier. Comme cela, on n'entend rien. Longe la maison pour trouver une entrée. Il voit une petite fenêtre au rez-de-chaussée ouverte. On a dû oublier de la fermer. Il regarde. La fenêtre donne à une cuisine. On a dû laver le sol et puis ouvrir la fenêtre pour faire sécher. Et on a oublié de la fermer. Il entre dans la cuisine. La pleine lune lui fait voir suffisamment la pièce. C'est grand, tout est propre, rangé. C'est une cuisine à l'ancienne. Il a le corps qui bat. Et je ne sens pas très rassuré. Car il n'a pas le droit de s'introduire chez les gens. S'il est pris, il aura même, peut-être même une amende, car il n'est même pas titulaire d'une carte de détective. Souvent, il a été poursuivi par des inconnus à cause de ça. Il n'est même pas privé, car pour être privé, il faut suivre des cours. La police peut le prendre et l'accuser de chercher à voler ou de tuer. À part de loup, le corps qui bat, il va sortir de la cuisine. Petit hall d'entrée avec escalier et porte de service. Il a très chaud et a hâte que ce soit fini. Il décide de monter les escaliers. Il se dit que les chambres doivent être au dernier étage. Donc, il faut qu'il cherche au premier. Il ouvre une porte. Qui donne au couloir du premier. c'est sombre, seulement éclairé par la lune grâce à une fenêtre. Il ouvre une porte du couloir. C'est la salle à manger. Il se dit, non, pas la peine. Il n'entre pas et ferme la porte en évitant qu'elle fasse du bruit. Il va ouvrir une autre porte. Ça semble être un bureau. Il entre, referme la porte, prend de sa poche une petite lampe de poche pour faire circuler la lumière, pour voir la pièce. Oui, c'est bien un bureau, avec des meubles anciens très gros. Il va au bureau. Il ouvre tout doucement un tiroir. Il y a des lettres. Il en prend une au hasard. Non, rien d'intéressant. Il en prend plusieurs. S'assoit pour les lire. Rien d'intéressant. Une le surprend. Il continue à les lire. Tout d'un coup, le trou noir. Un homme le ramasse à terre. Un deuxième l'aide. Et ils sortent de la maison. Devant la maison, une voiture noire. Un des hommes, pendant l'autre tient le corps, ouvre le coffre. L'autre dépose Jean inanimé dedans. Puis il referme le coffre. Et il entre dans la voiture. La voiture a filé. Elle quitte Paris pour prendre des rues de banlieue. Elle roule, roule. Les deux hommes ne se parlent pas. Ils sont tous deux habillés d'un costume noir. La nuit monte, leurs visages pâles, raides, comme des statues. Thank you.
La voiture s'est arrêtée dans une rue déserte, bien près d'un chantier d'immeubles. Ils sortent de voiture. Vont ouvrir le coffre pour prendre Jacques qui ne bouge pas. L'on l'aide, un l'aide l'autre à le prendre sur ses épaules. Il est tard. Non, ça va. C'est jeune. Et il marche jusque vers le chantier. L'homme qui est libre ouvre un grillage pour faire une ouverture. Il aide son compagnon à entrer. Ils sont dans le chantier. Il y a des trous, de la boue, de partout, des piles de béton, de sacs de béton, de ciment. Etc, etc. Dépose le corps de Jacques dans un bac de ciment. Mette des sacs de ciment qui est à terre, le déverse dans le bac pour recouvrir Jacques. Puis, prenne un tuyau qui est à terre. Ouvre le robinet. Se trouve où il y a le tuyau pour arroser le ciment. Et l'autre homme, avec une pelle, tourne le ciment pour que l'eau entre bien. Ils font ça très proprement. Sans se salir, et en faisant le moins de bruit possible. Puis, après avoir fini, ils ont bien arrosé la surface, ils ferment l'eau. On ne sait pas que si Jacques est mort ou s'est simplement assommé, on ne le saura jamais. Un des hommes dit: demain le bloc sera sec et les ouvriers vont le déposer pour en faire une poutre de fondation. Il se lave les mains. Et se dirige vers la sortie du chantier pour prendre leur voiture. En passant, il y a un poteau qui indique que le chantier est un chantier franc-blanc, maçonnerie internationale. Le lendemain matin, la mère de Jacques, qui ne l'a pas vu prendre son petit déjeuner, et il est déjà 11 heures, elle décide d'aller voir dans sa chambre que peut-être il est malade.
Elle entre dans la chambre. La pièce n'est pas fermée. La mère et le fils n'ont pas de secret. Elle voit que la chambre est vide. Le lit des faits n'est vide. Elle se dit que c'est rare que son fils découche. Mais enfin, il a 25 ans. Alors, il est si gentil. Il peut bien se faire du petit plaisir. Il a dû rencontrer une jeune fille. Et puis, c'est de son âge. Il reviendra sûrement cet après-midi. Et elle s'en retourne à ses occupations.
L'après-midi, le fils n'est toujours pas de retour. Le soir non plus. Le lendemain matin non plus. Elle commence à se faire du souci. L'après-midi, elle décide d'aller au commissariat du coin.
Elle part à sortir de chez elle. Caramel, non, reste ici, j'en ai pas pour longtemps. Et elle va au commissariat. Le commissariat se trouve au rez-de-chaussée d'un vieil immeuble. Elle y entre. Va vers la banque. Un gros policier à moustache et cheveux châtains la reçoit.
Vous désirez, madame?
C'est pour la disparition de mon fils.
Il a disparu depuis combien de temps?
Depuis plus de 24 heures.
Il a quel âge?
25 ans.
Le policier sourit et lui dit, ne vous faites pas de soucis, madame. Ma petite dame, il a dû aller chez sa copine.
Elle lui dit, mais non, il n'a pas de copine. Et puis, il m'aurait dit s'il s'était absenté autant.
Le policier lui dit, revenez nous voir dans une semaine.
Bien.
Et elle s'en retourne. Les jours passent et toujours pas de nouvelles. Elle essaye de voir dans ses affaires, dans les affaires de son fils, s'il n'y a pas un indice ou quelque chose comme ça. Mais non, elle ne trouve rien. Les jours passent. Elle est toujours très inquiète. Et le jour où elle doit aller au commissariat, on a sonné à sa porte.
Elle va ouvrir. C'est Maurice. Il lui dit, bonjour madame, j'aimerais voir votre fils. Entrez monsieur. Il entre. Elle ferme la porte et lui dit, je suis navré mais mon fils n'est pas là. Vous savez quand il reviendra? Elle lui dit, je dois avouer, monsieur, c'est que je ne sais pas. Mon fils a disparu depuis une semaine.
Comment cela?
Eh bien, une nuit, il est sorti pour votre enquête et n'est pas revenu. Maurice pâlit.
Vous savez où il est allé?
Non. Je sais simplement qu'il est parti. Que c'est pour vous qu'il est parti. Et c'est tout. Vous savez-vous où il est allé?
Il lui dit, non.
Mais votre enquête devait se faire où?
Je sais pas, c'est justement pour ça que je vais donner cette enquête.
Et quelle était cette enquête au juste?
Il lui dit gêné, secret. Votre fils m'a promis le secret.
Elle lui dit, je comprends. Mais que dois-je faire pour mon fils?
Attendez un peu, c'est le mieux pour vous. Bon, ben, je suis navré, madame. Je vous ferai parvenir des victuailles et m'informerai sur votre fils.
Merci, monsieur. Je suis inquiète. Mon fils et moi, c'est comme les doigts de la main.
Au revoir, madame.
Et il l'a dit.
Arrivé à son bureau, il est furieux. Il s'assoit à son bureau.
Il a dû aller les espionner cette nuit, chez elle, et s'est fait prendre. Qu'est-ce qu'elles lui ont fait? La maison est peut-être en coupe-gorge. Et dire que Gilbert fréquente ses femmes.
Puis il réfléchit. Et se dit,
personne ne doit savoir que j'ai commandé cette enquête.
Le lendemain, il va voir son ami, le ministre de la Justice, dans son ministère. et lui dit tout. Et que personne ne doit savoir que c'est lui qui a commandé l'enquête, qu'il est dans le pétrin. Le ministre lui promet une enquête discrète pour savoir ce que c'est que ces femmes et ce qu'est devenu ce jeune homme. Elle lui dit que la prochaine fois, il faudra, et que ce sera mieux, c'est qu'il passe par lui s'il a besoin d'une enquête. Les jours passent, pas de nouvelles. Maurice fait aider discrètement la mère de Jacques. Le temps passe, l'affaire est close. Mais Maurice se dit que ces femmes sont très dangereuses et qu'il faut faire attention à elles. Oui, il faut faire attention à elle. Si elles sont dangereuses, c'est qu'elles ont quelque chose à cacher. De graves choses à cacher. Qui sont ces femmes ? D'où viennent-elles ? Il décide, c'est de faire parler son fils. Il va le convoquer à son bureau, au siège. Fait le numéro de la maison.
Allô ? J'aimerais parler à mon fils. Merci. Allô Gilbert, peux-tu passer au siège, s'il te plaît? J'ai à te parler. Bien, merci. Je ne lui dirai certainement pas tout, mais simplement qu'il doit faire attention. Voilà, rien que ça.
Une demi-heure plus tard, son téléphone sonne.
Il décroche.
Allô ? Oui ?
C'est votre fils, monsieur, qui vient d'arriver.
Bien, faites-le entrer.
On frappe à la porte.
Entre.
La porte s'ouvre. C'est Gilbert qui apparaît. Voyant son fils, Maurice se sent fier de lui. Il est si beau. Quel dommage qu'un si joli garçon soit si peu sérieux.
Viens t'asseoir, mon fils.
Et Gilbert va s'asseoir en face de son père.
avait demandé, père.
Oui. Tu vois toujours ces poncets.
Oui, père.
Je n'appuie pas ces fréquentations. Je n'approuve pas même. Ce sont des femmes dangereuses. Fais très attention à toi.
Qu'est-ce que vous dites là, père?
J'ai fait mon enquête et elles sont très dangereuses.
Pourquoi dangereuses?
Je ne peux pas te le dire, mais je le sais.
Je vous en prie, père, dites-moi quelque chose que je sache.
Je n'ai rien à te dire de plus. Fais attention à toi. C'est tout ce que je peux te dire. Il se passe de drôles de choses autour de ces femmes. T'as bien compris? Allez, va-t'en.
Hubert, surpris, quitte son père. Au revoir, père.
Au revoir.
Une fois dehors, sur le chemin qui le mène chez lui, il se dit « Se fait-il que Nathalie, avec son si beau visage, ce corps si gracieux, cache quelque chose de dangereux ? Je ne peux le croire. Elle a un sourire si doux. Mon père m'a dit ça pour que je ne la revoie plus. Mais si mon père avait raison, il se souvient de ses soupçons, de la fois où il a vu accompagné d'un inconnu et de cette nuit si étrange où il l'a suivi dans un labyrinthe et puis abouti chez une vieille femme malade assise sur une chaise. Et les soupçons, les accusations de cette Françoise. Oui, il ne peut le nier. Il y a du mystère chez cette fille. Il décide de la surveiller de plus près. De la surveiller et de la suivre s'il le faut. Il se cache aux sorties de l'université pour voir ce qu'elle fait et la suit jusqu'à chez elle. Le soir, il se poste devant chez elle pour voir si elle ne sort pas. Il passe toute la soirée à attendre et décide de partir qu'à l'heure où il l'a vue sortir pour aller voir la vieille femme. Mais non, rien. Pendant une semaine, il la suit de la sortie de ses cours où elle entre chez elle gentiment, car le soir, elle ne sort pas. Il n'a rien à lui reprocher. Il la revoit à la sortie de son université et se comporte avec elle comme si tout était normal. Elle aussi semble normale. Tout semble tellement normal que près d'elle, il en oublie tout. Qu'ils sont à leur café, elle lui demande « T'as des nouvelles de Lionel ?»« Non, pourquoi ? Il t'intéresse ?» Elle hoche les épaules et lui dit « Pas du tout, mais comme on n'en entend plus parler, » Gilbert lui dit « Qu'il reste où il est celui-là. » »« Tu as raison, d'ailleurs c'était qu'un petit merdeux prétentieux. » Gilbert lui demande « Tu revois Françoise ?» Oui, de temps en temps. C'est plutôt elle qui cherche à me revoir. Elle est un peu bizarre. Et puis, elle n'est pas de notre monde. Comment ça? Oui, ce ne sera qu'une infirmière. Gilbert lui dit, j'aime pas cette façon de parler. On ne doit pas dénigrer les gens parce qu'ils sont moins fortunés que soi. Elle lui dit, je te demande pardon. Je parle comme ma mère. Gilbert lui demande, ta mère ne m'aime pas non plus. Parce que d'après elle, je ne suis pas assez bien. Mais elle, qui est-elle? D'où vient-elle? Pour dénigrer les autres. Nathalie lui dit. Elle vient d'une autre époque. Elle n'a pas été éduquée comme nous. Pour elle, les classes ne devraient pas se mélanger. Il lui demande. Mais d'une façon plus concrète, qui êtes-vous? Elle lui dit. Tu le vois bien? Gilbert hausse les épaules et lui dit « Tu ne vas rien me dire? Tant pis !» Elle lui dit « Cela ne nous empêche pas de nous aimer. » Il ne dit rien. Les jours passent et il continue à la surveiller sans qu'elle s'en aperçoive. L'après-midi qu'il attend en cachette la sortie de l'université, lorsqu'elle sort, il voit courir à elle le grand jeune homme de la dernière fois. Cela fait mal à Gilbert. Il la voit. Il le voit qu'il la prend dans ses bras et l'embrasse sur la joue. Elle a un visage radieux. Lui aussi. et ils s'en vont, bras dessus, bras dessous. Il lui a même pris son cartable. Ils forment un joli couple que Gilbert ne manque de s'évanouir en les voyant. Les oreilles lui bourdonnent. Il a la tête en feu, évidée, le corps qui bat très fort, les jambes qui tremblent. Tout ça, c'est l'émotion, la chaleur. Il ne sent pas vraiment de la jalousie, mais comme vidé. Et en les voyant, il a l'impression de n'être plus rien, ou d'être retourné dans le monde de la foule, des anonymes. Les larmes lui viennent. Il souffre un peu et veut les suivre. Mais il a des difficultés à le faire. Il y voit trouble. Les jambes ne le tiennent plus. Et cette douleur du côté du corps. Tout à coup, sa bouche se sèche. Il a des difficultés à respirer. Hachoit la tête. Il y voit de plus en plus trouble. Sa respiration a de plus en plus de difficultés. Il se penche. Il y voit de moins en moins. Le trou noir. Il ne peut plus bouger. Sans ses yeux ouverts, mais il n'y voit pas. Il entend la foule, des gens qui disent qu'il faut appeler les pompiers. On se penche vers lui. Il ne peut pas faire un geste ni parler. Puis, petit à petit, sa respiration se calme. Il a moins chaud à la tête. Il y voit de mieux en mieux et sent qu'il peut se relever. Il fait un essai. On lui dit:
non, restez, ça peut être dangereux.
Ça va, ça va. Il se relève, essoufflé, épuisé. On lui dit:
attendez, les pompiers vont venir.
Il leur dit: pas la peine, ça va, ça peut aller. Je me sens mieux, de mieux en mieux. Il marche un peu, il a la bouche sèche. Je vais aller au café. J'ai soif. Merci. Ça va. Ce n'est rien. Et il va à un café qui est à côté. Il s'assoit. Le serveur vient. Il lui dit: jus de citron. Pas glacé. Merci. Il se dit: j'ai jamais vu comme ça. Quelle honte. Heureusement que personne qu'il connaissait l'a vu. Que c'est comme ça. Les pompiers arrivent au café. Viennent vers lui.
Vous allez bien, monsieur?
Oui, merci. Un peu de fatigue, mais ça passe.
Vous voulez pas venir avec nous?
Non, merci.
Comme vous voudrez.
Gilbert dit: et pour vous me remercier,
J'ai prendre un verre.
Non, merci, c'est notre métier.
Et ils s'en vont. Le serveur arrive, lui donne sa boisson. Gilbert lui donne sa carte pour payer. Après avoir bu, il s'en retourne. Il a pris un taxi pour rentrer chez lui.
Une fois chez lui, il va dans sa chambre pour se coucher. Il se déshabille en vitesse.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.